Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Élise Lucet.
Bonjour, bonjour à tous.
Plaisir de vous entendre, vous êtes la présentatrice de Cash Investigation qui passe ce soir en prime time sur France 2. Le thème c'est l'égalité salariale, le titre égalité homme-femme, balance ton salaire. Il y a de quoi faire, ce chiffre. En France, en dépit d'une loi non appliquée qui remonte à 1972, donc 47
Mais
ans,
oui.
Les hommes ont un salaire supérieur à celui des femmes de 22,8%. Bonjour Zoé de Bussière.
Bonjour.
C'est vous, Zoé, qui avez signé l'enquête que l'on va voir ce soir, enquête présentée par Élise. Et on voit aussi Élise dans l'enquête. Vous avez beaucoup enquêté, Zoé, dans le milieu médical pour savoir notamment pourquoi les infirmières étaient aussi mal payées. Je précise que vous avez tourné avant la crise du Covid-19. Mais tout d'abord, premières recherches se tournent vers le milieu bancaire. Pour quelle raison ?
Alors tout simplement parce que le milieu bancaire, en fait, le secteur précisément de la banque, de la finance et des assurances, c'est le secteur qui a le plus grand écart de salaire entre hommes et femmes, c'est-à-dire qu'on mesure un écart de 36%. Voilà, c'est pas moi qui le mesure, hein. D'ailleurs c'est la DARES qui dépend du ministère du Travail. Et donc on s'est un petit peu interrogé sur les raisons d'un tel écart, et elles sont nombreuses. Mais la raison la plus importante, c'est qu'en fait, dans ce secteur, alors que les femmes sont majoritaires, en fait, elles occupent des postes qui sont moins rémunérateurs en général que ceux des hommes. Et c'est particulièrement vrai dans le secteur de la finance, où par exemple, les postes les plus rémunérateurs, ce sont les postes de trading, avec des énormes bonus à la clé. Et ces postes-là sont en général occupés par des hommes.
Et ce qu'on comprend, c'est que ce qui pose problème principalement, avant même des vieux relents de sexisme, c'est la maternité, séquence très forte. Quand une ancienne employée d'une salle des marchés révèle que pour se faire embaucher, elle a dit qu'elle ne comptait pas avoir d'enfants. Le problème, c'est que c'est un mensonge, mais surtout que cette question est illégale. On n'a pas le droit de demander ça à une employée ou à une future employée.
Exactement.
Et oui, on n'a pas le droit de lui demander. Élise, alors la conversation qui suit est absolument effarante, parce que quand elle annonce à la personne qui est au-dessus d'elle hiérarchiquement qu'elle est enceinte, mais il lui dit mais tu m'as trahi, c'est horrible ce que tu fais, tu te rends pas compte, je me suis battue pour qu'on embauche une femme et là t'es enceinte, mais c'est une trahison. Comment je vais expliquer ça à tout le monde? Et c'est absolument incroyable d'entendre ça au 21e siècle.
Ouais.
Et alors... de voir qu'aujourd'hui, une femme, quand elle annonce sa maternité, se voit recevoir comme ça. Et d'ailleurs, elle a quitté son poste après.
Et alors Julie, puisqu'elle s'appelle Julie, a travaillé, c'est peut-être pas son vrai prénom, elle a travaillé en salle des marchés chez Natixis. Et alors Zoé, elle vous a raconté l'ambiance extrêmement masculine, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors c'est un milieu qui est boosté à la testostérone, enfin en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. C'est un milieu 100% masculin, c'est-à-dire que j'étais l'exception, je dirais. On estime qu'il faut avoir des couilles. Il y a beaucoup cette histoire de couilles, c'était vraiment quelque chose qui est très récurrent. Mon premier boss me le disait tous les matins, est-ce que tu mets tes couilles sur la table ? Donc je répondais à mon boss de l'époque, oui, je mets mes couilles sur la table, tu peux me faire confiance, je veux prendre cette décision. Je répondais. Donc je pense que pendant longtemps, effectivement, je me suis fondu dans un moule très masculin. C'était les réunions d'équipe où on va au restaurant et après le restaurant, on va dans des clubs de striptease.
Et vous, en tant que femme, vous faisiez comment, justement, lors de ce dîner qui se finissait dans des clubs de striptease ?
Bah, je zappais, c'est-à-dire qu'après le restaurant, je rentrais chez moi, tout simplement.
On reconnaît votre voix, Zoé de Bussière, et autre confidence que vous fait cette jeune femme dans les salles des marchés, la manière dont on parle des femmes qui ont eu des enfants.
Les blagues sur les pondeuses aussi, qui revenaient de façon assez récurrente dans les salles des marchés.
Les pondeuses, c'était les femmes enceintes ?
Oui, les pondeuses, ouais. Une vendeuse, on lui avait dit « retourne pondre et arrête de faire chier ».
Malheureusement, Zoé de Bussière, ça va bien au-delà des blagues sexistes, parce qu'une fois que Julie revient de son congé maternité, que se passe-t-il pour elle ? Racontez.
Eh bien, en fait, elle est petit à petit placardisée, c'est-à-dire que c'était une tradeuse qui avait un portefeuille, hein, donc elle gérait quand même un gros volume financier.
Ouais.
Et petit à petit, en fait, ses responsabilités, ses prérogatives lui sont retirées de façon assez insidieuse. Et à l'inverse, en fait, alors qu'elle était conviée évidemment à toutes les réunions opérationnelles avant sa grossesse, eh bien, elle en est écartée. Et c'est un junior qu'elle-même a formé qui prend sa place. Voilà, donc petit à petit, elle ne gagne plus de bonus. Elle ne fait plus du tout les mêmes contours du métier qu'elle exerçait avant. Et ce qui est terrible, en fait, c'est que au départ, presque, elle culpabilise, en fait. Elle se dit que c'est de sa faute et
Mais
fait tout pour essayer de montrer des preuves d'implication à sa hiérarchie.
Et même quand elle vous raconte l'histoire, elle a encore les larmes aux yeux. Statistiquement, il apparaît, je l'ai appris dans le doc, avec le même diplôme qu'un homme avec le même diplôme qu'un homme, pardonnez-moi, une femme a deux fois moins de chances d'avoir un poste de direction dans la finance. Et alors à ce propos, vous faites témoigner dans l'émission une sociologue. Elle s'appelle Valérie Boussard, elle a beaucoup travaillé sur ces questions. Et ce qu'elle dit est absolument passionnant parce que c'est contre-intuitif. Et c'est comme si son analyse, en quelque sorte, renversait votre reportage. On l'écoute.
Alors ce que j'ai pu observer, c'est que elle combine en fait plusieurs caractéristiques. Et c'est ça qui fait la rareté en fait. Premièrement, pour faire face à la demande d'archidisponibilité, elles ont plutôt des conjoints qui s'occupent, eux, des enfants. Donc une inversion de ce qu'on voit dans les couples habituels.
D'accord. Voilà.
Ou alors elles sont célibataires et n'ont pas d'enfants. Alors une autre caractéristique, c'est plutôt des femmes qui semblent avoir été élevées comme des garçons, c'est-à-dire qui sont capables, dans leur comportement quotidien, d'agir tel qu'un garçon. Alors ça peut vouloir dire être capable d'une certaine agressivité. C'est aussi des métiers qui se construisent comme des métiers où il faut combattre, être en conflit avec d'autres équipes, donc il faut savoir être agressif.
Élise Lucet, c'est là où c'est très complexe, c'est pour ça que c'est très intéressant ce cache investigation. On voit par là que c'est pas seulement une question de sexe, de préjugés, une question de personne, mais également de comportement. Il faut être agressif.
Ouais, puis c'est aussi une question d'éducation, je pense. C'est-à-dire qu'on dit très clairement aux femmes que si elles veulent accéder à certains métiers, il faut qu'elles se, entre guillemets, masculinisent. Ouais. Et donc elles intègrent ça. Et je pense que effectivement, là où toute l'enquête de Zoé est très intéressante, c'est qu'on voit que quand les entreprises prennent vraiment des décisions autres et font rentrer ou dans leur conseil d'administration ou dans leur COMEX des femmes en prenant plutôt effectivement toutes leurs compétences, toutes les compétences qu'elles peuvent dégager sans leur demander de se masculiniser, ça apporte un équilibre dans l'entreprise. Mais là, effectivement, ce que dit cette sociologue, c'est assez affreux parce que, en gros, si vous voulez être une femme qui réussit, il faut se transformer en homme. En gros, c'est quasiment ça. Et socialement, il faut prendre le positionnement d'un homme, avoir un conjoint qui garde les enfants, etc. Donc, c'est vrai que...
On a perdu Élise Lucet, vous êtes revenue. Élise, vous restez avec nous, Zoé de Bussière, vous restez également avec nous. On va continuer à parler de l'égalité homme-femme, balance ton salaire. Et je suis heureux de dire ici, nous sommes dirigés par une femme. Je salue Constance Benquet, on marque une courte pause, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Cache investigation, égalité homme-femme, balance ton salaire, c'est ce soir à 21h sur France 2, émission présentée par Élise Lucet, avec une très édifiante enquête de Zoé de Bussière. Il n'y a pas que les salles de marché dans la banque dont nous parlions, il y a également les employés en agence, au point qu'il y a des salariés de la Caisse d'épargne, par exemple majoritairement des femmes, mais pas seulement, qui ont lancé une action de groupe contre la Caisse d'épargne pour faire valoir leurs droits et rétablir l'égalité des salaires entre femmes et hommes. Tout comme Natixis, la Caisse d'épargne est une filiale du groupe BPCE, pardon, c'est un peu technique, mais sinon on ne comprend pas la séquence qui suit. Et le patron du groupe, Laurent Mignon, évidemment, a été sollicité par Cache Investigation, par l'équipe. Il a refusé toute interview, mais on apprend, l'équipe apprend qu'il doit participer à un événement sur la finance et le sport au Carrousel du Louvre. Et du coup, Élise Lucet se fait inviter à l'événement et elle réussit à le croiser dans un couloir avec micro et caméra.
Bonjour Monsieur Mignon.
Bonjour.
Élise Lucet, Cache Investigation,
oui,
France 2.
Oui.
Je voulais vous demander, parce qu'il y a une action de groupe qui est menée contre votre groupe pour discrimination sexuelle.
Ouais.
C'est une première et je voulais vous demander quelle était votre réaction par rapport à ça.
Je suis pas au courant.
Vous n'êtes pas au courant ? Cette action de groupe, elle est menée notamment parce que l'écart de salaire homme-femme est de 18% dans les caisses d'épargne Île-de-France. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez de cet écart de salaire ? Non, on ne va pas se faire mal, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous pensez de cet écart de salaire ? Monsieur Mignon, est-ce qu'on peut penser avoir une interview calmement autour de ce problème qui est un problème important de la société actuelle sur l'égalité homme-femme, l'égalité de salaire notamment ? Vous n'avez rien à dire là-dessus, monsieur Mignon ?
Non, rien du tout.
Élise Lucet, sont là les invariants de Cache Investigation. C'est à la fois ce que les gens adorent et ce que d'autres vous reprochent, mais vous ne pouvez pas faire autrement.
Ben non, et c'est malheureux parce que je pense qu'il s'agit vraiment d'un problème qui touche énormément de gens en France, particulièrement des femmes, mais même la plupart des conjoints sont scandalisés que leurs femmes gagnent moins que eux, alors qu'elles ont des compétences plus importantes ou des diplômes plus importants. Donc c'est des sujets qui sont hyper importants et un patron comme Laurent Mignon qui dirige la BPCE devrait effectivement accepter une interview. Je pense que dire « je ne suis pas au courant » alors que cette action de groupe est une première en France pour discrimination liée au sexe, ça semble impossible qu'il ne soit pas au courant. Deux solutions, ou il n'est pas au courant et c'est catastrophique, ou il est au courant il ne veut pas répondre et c'est pas bien parce qu'il faut assumer ses responsabilités. Quand dans les caisses d'épargne Île-de-France, il y a 18% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, effectivement, ça pose question. Quand il y a une action de groupe qui est menée, ce qui est une première en France, ça pose question. Mmh. Et on s'attend à ce que le grand patron réponde.
Il existe des solutions. Zoé de Bussière, il y a un message d'espoir que vous nous révélez qui arrive du Québec. Là-bas, le combat pour l'égalité salariale entre hommes et femmes est parti des gardiens de zoo. Racontez, expliquez.
Oui, exactement. C'est cette image des gardiens de zoo qui a un petit peu secoué l'opinion publique dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. En fait, un jour, un syndicat s'est aperçu qu'un gardien de zoo en salaire horaire était mieux payé que l'équivalent d'une assistante maternelle en crèche, quoi.
Ouais.
Donc en gros, on paye mieux quelqu'un qui garde des animaux que quelqu'un, une femme en l'occurrence, qui garde ses enfants. Et donc ça a un petit peu secoué l'opinion publique. Il y a eu une grande vague de manifestations dans tout le pays en 95 et l'année d'après en 96, la loi sur l'équité a été prononcée. C'est-à-dire qu'en gros, on a dit maintenant ça suffit. On va regarder toutes les compétences de chaque métier on va essayer de donner une note à chaque métier dans une entreprise et on va arrêter de comparer une caissière à un caissier par exemple, ouais. Mais on va comparer une caissière à par exemple un magasinier qui range des choses en rayon. Mmh. Et comme ça en fait ça a permis de réévaluer énormément de métiers dits féminins.
Pardonnez-moi Lise Lucet, vous avez rencontré une chercheuse, elle s'appelle Rachel Silvera et elle indique que oui. Le slogan qu'on trouvait gravé dans le marbre et très juste, à travail égal, salaire égal, devrait être remplacé par un autre slogan, à travail de valeur égale,
salaire égal.
Ça changerait quoi ?
Ah ben ça changerait tout, parce qu'effectivement, c'est ce que raconte Zoé là, de Bussière, qui a mené cette enquête. Mais là, on a vu l'importance, par exemple, des infirmières pendant la crise du Covid-19. Ouais. Bon, évidemment, tout le monde était déjà scotché par ce qu'elles font, la pénibilité de leur métier, l'attention qu'elles portent aux autres. Elles ont Bac+3, elles gagnent en gros, en moyenne, 1800 euros net par mois. C'est une moyenne. Et là, si on compare ces femmes-là à des techniciens qui travaillent effectivement eux aussi à l'hôpital, ben, on se rend compte que c'est des techniciens supérieurs hospitaliers. Ils n'ont a priori pas le bac. Mais ils sont mieux payés que les infirmières. Donc, vous voyez, si on fait un comparatif entre ces techniciens supérieurs hospitaliers et les infirmières, obligatoirement, le salaire des infirmières va être revalorisé. Et c'est ça qui est intéressant.
Mais ouais, vous donnez un exemple.
Il ne faut pas comparer des pommes et des pois. Il y a un moment où il faut effectivement vraiment comparer un travail à valeur égale. Et là, ça change tout dans la manière dont on met l'échelle des salaires dans les différentes filières.
Il y a un exemple que vous donnez, c'est un couple qui travaille à l'hôpital. Ils gagnent tous les deux la même somme à 5 euros près. Elle est infirmière, il est électricien, elle est Bac+3, elle sauve des vies. Lui, il a un CAP. Et s'il se trompe sur une installation de câble, c'est pas grave, il va dormir tranquille, il termine le lendemain et ils ont le même salaire. Le plus dingue, et je l'ai découvert avec vous, c'est que cette loi, il y a une loi qui devrait faire que ces barèmes-là soient appliqués, qui existe en France depuis 72. Je la cite, tout employeur assure que pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes doit être respectée. Pourquoi cette loi n'est-elle pas appliquée ?
Élise, est-ce que tu veux répondre à cette énigme ?
Oui, non, c'est compliqué. En fait, si vous voulez, ce qui est très intéressant, et moi j'encourage vraiment les gens à regarder l'enquête de ce soir, parce que l'exemple canadien et québécois, qui va bientôt devenir l'exemple canadien, parce qu'il va être appliqué a priori à l'ensemble du pays, est un vrai exemple de décision politique. À un moment, les politiques au Québec se sont emparés de ce problème et ont pris des décisions. Alors effectivement, pour augmenter les infirmières et pour revaloriser toute cette filière-là, parce qu'elles gagnent quand même 5 500 euros de plus par an aujourd'hui, donc c'est une revalorisation tout à fait notable, il a fallu geler les salaires pendant 2 ans. Et il a fallu expliquer à toute la population que pour revaloriser les métiers à prédominance féminine, ce qu'on appelle à prédominance féminine, il fallait geler les salaires pendant 2 ans. Et je pense que les Québécois n'ont accepté parce qu'ils savaient qu'il y avait une injustice et une discrimination profondément. Ils l'ont accepté. Donc il y a un moment, c'est une décision politique, et il faut que les politiques s'emparent du problème et appliquent leurs propres lois. C'est tout simplement ça. Il faut qu'enfin ces lois soient appliquées. Après, ce qui se passe, c'est aussi qu'il y a assez peu de contrôle, assez peu de sanctions. Je pense notamment à la loi qui doit imposer 40% dans les conseils d'administration de femmes. Et ben là, on se rend compte que ben, c'est la loi Copé-Zimmermann, elle existe, mais il n'y a pas du tout de contrôle sur cette loi et il n'y a pas de sanctions vis-à-vis des entreprises. Donc comment voulez-vous que cette loi soit réellement effective ?
Nous resterons... J'allais vous dire, nous restons sur cette question, Élise Lucet. Zoé Bussière également, je vous remercie. Cash, investigation, égalité, homme-femme, balance ton salaire. Je conseille l'émission, c'est ce soir à 21h sur France 2. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Culture Média qui continue dans un instant.